Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Giribonne. Il est né à Marseille, c'est un ancien élève de l'école normale de la rue d'Ulm, école normale supérieure donc, agrégé de lettres. Il a été éditeur en sciences humaines, en psychanalyse aux éditions du Seuil. Il a notamment publié dans bien des domaines, beaucoup d'articles, de différentes publications, et puis deux livres. Un livre intitulé « Les méditations carnavalesques » et un autre sur « Le rire étrange ». Et son dernier livre n'est pas exempt de cet humour qu'il l'intéressait peut-être lorsqu'il a écrit sur le rire. Et il publie donc aux éditions Indigènes, vous savez, dans cette petite collection qui a vu le succès du texte de Stéphane Hessel, il publie un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un homme de vérité ?» Jean-Luc Giribonne, bonjour.
Bonjour.
Alors, je disais que vous publiez dans la collection Indigène « Qu'est-ce qu'un homme de vérité ?» C'est un petit livre, mais un petit livre extrêmement dense. Alors, je me suis posé la question, quand il est question de vérité précisément, vous auriez pu intituler un livre sur le sujet « Qu'est-ce que la vérité ?» Mais non, vous n'avez pas choisi cette voie-là, vous avez choisi d'appeler ce livre « Qu'est-ce qu'un homme de vérité ?» Pourquoi ?
Parce que je voulais éviter, au fond, alors je n'y suis peut-être pas complètement parvenu, mais je voulais au fond éviter un traitement strictement philosophique de la question. Qu'est-ce que la vérité ? Ça m'aurait entraîné en effet sur toute une réflexion, qui d'ailleurs n'était pas complètement de ma compétence, qui était immense, etc., et qui ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, moi, c'était, d'une certaine façon, me situer dans le lieu d'interrogation de ce qu'on appelait autrefois les moralistes. Vous voyez, c'est-à-dire des gens, enfin, je ne vais pas me comparer à eux, ce serait grotesque, hein, mais je définis plutôt un genre, des gens comme Pascal La Rochefoucauld, Balthazar Gracian, qui est espagnol et qui est tout à fait cité dans le livre. Et alors, justement, Balthazar Gracian est intéressant parce qu'il a écrit un certain nombre de traités. En effet, l'homme de cour, enfin, etc., ou le héros, enfin, et d'autres, où au fond, il essaye de définir un profil de personnage qui est un profil psychologique, mais qui va au-delà, qui est plutôt, moi, je dirais, une situation par rapport à la vie, vous voyez, une façon d'aborder la vie. Comment aborder la vie en société, qu'est-ce que l'héroïsme, etc. Et j'ai essayé de le faire de la même façon, c'est-à-dire de définir plutôt une attitude existentielle par rapport à la vie de celui qui... C'est parti un peu de cette expérience qu'on a un peu tous, quoi. Qu'est-ce qui nous lie à la vérité ? Qu'est-ce qui fait que finalement, on peut être prisonnier presque du fait de vouloir la dire ? Hein, quel est le rapport que nous avons à la vérité spécifique qui le différencie du rapport que nous avons, par exemple, au mensonge, etc. Donc j'ai essayé de réfléchir sur... Au fond, on pourrait presque dire ce qu'est ce programme de vie. Voilà. Ce qu'est ce programme de vie, à quoi il engage, quelles en sont aussi les difficultés, etc. Et tout ce que je traverse, les références littéraires que je traverse, que je traite, disons, et puis toutes les autres considérations, finalement, elles sont dans cette orientation-là, une orientation vraiment existentielle, si vous voulez. Voilà.
Alors, on pourrait dire que c'est un essai. Mais ce serait pas assez, parce que c'est très empreint de ces auteurs du 18e dont vous parlez. J'ai pensé aussi un petit peu à Diderot,
oui,
dans sa façon de... Dans ses textes un peu qui sont difficiles à définir, dont on ne sait pas si ce sont des essais, si ce sont... Voilà. Et donc, c'est un peu un objet littéraire non identifié, pourrait-on dire. Mais c'est extrêmement facile à lire. Alors, contrairement à ce que pourrait, on dit la vérité, oulala, ça n'est pas un livre docte, c'est un livre très savant, par contre, et on chemine à l'intérieur en faisant son miel, telle l'abeille qui butine ici ou là. Alors, bon, on ne peut pas en rendre compte totalement, mais on va essayer de voir... comme ça, de prendre quelques, de faire quelques prélèvements pour montrer à nos auditeurs comment ça, ce que ça agite, disons. Et alors, donc en prenant, comme vous le précisiez à l'instant, le personnage, vous prenez le personnage d'Alceste comme une sorte de modèle de comportement vis-à-vis de la vérité.
Ouais,
ce qui vous permet, dès le début, de dire qu'au fond, et aujourd'hui c'est important, on en a quand même un tout petit peu besoin de la vérité, au moins par rapport au reste.
Absolument, c'est-à-dire qu'effectivement, alors, je reprends les deux choses que vous dites. D'abord, en effet, la conjoncture, hein, oui, je crois qu'on éprouve tout ça. On est dans une époque de la surabondance, je dirais, de l'offre diverse dans tous les domaines. Et pour aller vite, bon, ben, on sent très bien qu'il y a beaucoup de tocs, de bidons, enfin, dans tout ça, etc. Bon. Et on a besoin d'un point de référence. Ce besoin d'une référence nouvelle, je crois que bon, elle est souvent dite. J'ai essayé, pas tellement de savoir ce qu'elle pourrait être, mais j'ai essayé plutôt de le voir, ce besoin de référence, de voir ce point de référence, d'essayer de voir comment il pourrait se reconfigurer. Donc ça c'est la première chose. Effectivement, je pense qu'on en a absolument tous besoin, et que lorsqu'on tombe justement sur un discours, un homme, enfin une femme, une personne qui nous paraît être, non pas forcément quelqu'un qui dit la vérité au sens où c'est ce que nous pensons, mais qui est un homme ou une femme de vérité, tout de suite on tend l'oreille, et c'est pas un discours comme les autres, et ça pourrait peut-être fournir un cadre pour nous, un point de référence, etc. Immédiatement apparaît ça. Donc ça, c'était la première chose, au fond, qui m'a poussé. Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis aperçu, enfin je le savais déjà, mais bon, tout le monde le sait, parce que c'est archi connu, que dans notre très beau patrimoine littéraire français, je dis ça sans la moindre ironie, parce que je trouve que c'est un patrimoine littéraire et magnifique, la culture française, bon, on a une œuvre extraordinaire dont c'est exactement le sujet, qui est une œuvre archi connue, et donc, comme toutes les œuvres connues, elle a le malheur d'être étudiée à l'école. Bon, c'est Le Misanthrope de Molière. Et alors, que j'ai lu, non pas. D'abord, dont Lacan, chose assez peu connue, et je me demande bien pourquoi des amateurs, même de Lacan, a fait une magnifique étude, j'engage les lecteurs qui s'intéressent à Lacan à la lire, dans les écrits, hein, il suffit qu'ils aillent à l'index, Molière, et puis ils le trouveront très facilement. Bon, on en parlera peut-être après. Mais même en dehors de ça, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au fond, c'est presque une étude expérimentale, je dirais, du programme « Dire la vérité ». C'est quelqu'un qui, effectivement, est habité par la vérité, qui ne peut rien dire d'autre que la vérité, qui boue littéralement lorsque, vous vous souvenez, un certain nombre de scènes, la scène du sonnet, qui est très connue, bon, et qui ne peut pas supporter, au fond, que le discours, finalement, échappe au vrai. Et alors, Molière, avec son génie habituel, montre à la fois que, quelque part, ce programme est impossible à éviter, et aussi qu'il est impossible à réaliser.
À tenir, oui.
Voilà. Il est impossible à éviter parce que quelque part, on est tous ou dans le désir ou dans le regret de la vérité, même les gens qui mentent, hein, tout le monde se réfère à la vérité. Et il est peut-être impossible à réaliser parce que quand on commence à la dire, on a tous eu l'expérience amère que ça se passe souvent très très mal pour tout un certain nombre de raisons que la pièce montre très très bien. Et donc j'ai essayé de la regarder sous cet aspect-là et au fond d'en tirer, c'est un peu comme dans le livre, un certain nombre d'enseignements pour notre vie à nous. Hein. Je l'ai prise, je dirais, le plus modestement possible avec tout ce qu'elle a, toute sa richesse, etc. Pas du tout un spécialiste de Molière, j'en étudie pas la dramaturgie, le style qui est admirable, c'est admirablement écrit, bon, etc. Mais je l'ai étudié presque comme une expérience de vie. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est habité pas tellement par la vérité qu'il ne peut même pas mentir quand il s'agit de la qualité d'un sonnet que fait un bellâtre de cour. Pour le dire en termes modernes, on se dit, nous, mais quel est l'enjeu ? Il avait qu'à dire à ce personnage que son sonnet était très bon, et puis c'est terminé. Mais il ne peut pas. Voilà, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas ? Et qu'est-ce que ça entraîne, le fait de ne pas pouvoir, etc.
Alors, qui plus est, ce besoin impérieux de vérité l'empêche de faire les déclarations d'amour qui s'imposeraient vis-à-vis de la personne qu'il aime.
Voilà.
Et vous dites, il pêche par maladresse, en définitive.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça le bloque. Alors d'abord, il y a quelque chose de très beau dans la pièce. C'est pas tout à fait antigé, mais je le signale au passage, parce que c'est Villard, notamment, en a parlé. Je crois que c'est Villard qui a dit, le misanthrope, c'est l'histoire de quelqu'un qui aime une femme et qui n'arrive pas à avoir avec elle l'entretien qu'il voudrait avoir. C'est magnifique, hein. Et en effet, vous vous souvenez probablement, la structure narrative est très très belle et très moderne, hein. C'est-à-dire, c'est la structure de l'empêchement d'une scène qui, si elle avait lieu, peut-être réglerait le problème, et sans cesse des obstacles interviennent. Et quand la scène a enfin lieu, c'est à la fin, c'est trop tard, quoi, hein. C'est pour ça que c'est une tragédie, au fond, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'elle... Enfin, c'est trop tard. Elle a perdu sa situation mondaine. Elle n'est plus du tout dans la même situation par rapport à Alceste. Vous vous souvenez probablement qu'il y a une espèce de changement de la couleur presque dramatique. C'est-à-dire que ça devient très émouvant. Elle commence à l'aimer quelquefois. Elle commence enfin à le comprendre. Et lui, et c'est là que Molière est très fort, hein. Et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répète son éternel truc, son éternel rengaine. Il est incapable de percevoir ça. Il lui propose de l'accompagner dans son désert.
C'est une offre pas très sympathique. Surtout pour une femme qui a envie de vivre.
C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en plus, il y a un côté vieillot merdeur, pas seulement l'expression. Enfin bon, on l'imagine très bien dans son désert fulminé. Bon, voilà, elle a peut-être mieux à faire que ça. Donc la conversation finit par venir trop tard et ne donne rien. Et donc c'est pour ça que... C'est vraiment l'occasion de dire que c'est une tragédie, là, hein, une tragédie comique qui finit mal, il part, bon, enfin, il part peut-être pas, on ne sait pas. Enfin, on suppose en tout cas qu'il part. Et donc, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est que, d'une certaine manière, le fait d'être habité par la vérité lui donne une sorte de rigidité dans les situations.
L'empêche de vivre, presque.
L'empêche de vivre, etc. Et au fond... Ce qu'il ne voit pas, entre autres choses, c'est que c'est sa propre rigidité qui bloque aussi Célimène. Célimène, elle a, c'est au fond une femme qui nous est montrée comme extrêmement brillante. Bon, c'est ses propres...
Très moderne.
Aussi. Très moderne. Ouais. Ses propres portraits sont hilarants. C'est d'un brio. Moi, je l'ai relu la pièce, j'étais ébloui par le brio de la pièce. Enfin, c'est extraordinaire, c'est enlevé, c'est très drôle. On les voit, vous vous souvenez, dans les ridicules de cour, il y a celui qui est toujours mystérieux, qui ne peut pas dire les choses, etc. Bon, enfin, il y a un certain nombre de ridicules de cour, et il y a cette scène extraordinaire où elle fait le portrait de tous ces ridicules de cour, de Von Alceste, qui bouillonne, etc. Bon. Et à la fin, quand il explose en disant bon, je sais plus quoi, allez-y, poussez ferme, bons amis de cour. Eh bien, elle réagit en faisant son propre portrait à lui, Alceste, et en le traitant comme un ridicule de cour, comme les autres, la marionnette qui dit toujours la vérité. Ne faut-il pas bien que monsieur contredise? Enfin, vous vous souvenez de ces voix très bien. Donc, effectivement, là, on voit très bien ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est le dire de la vérité entraîne une certaine rigidité. Cette rigidité m'empêche de m'adapter à la situation. Ça peut être simplement pas très grave, bon, une petite mortification sociale, comme on a tous eu. Ça peut être extrêmement grave, parce que le mot qu'il fallait dire, j'ai pas su le dire, j'ai pas su m'adapter, j'ai pas su parler à cette femme que j'aime, j'ai perdu mon temps avec ce bellâtre de cour et son sonnet, etc. Les orages s'accumulent. Hein, et puis il y a alors cette chose magnifique aussi qui n'est pas assez relevée par les commentateurs, moi je trouve, hein, il y a à l'horizon ce fameux procès presque kafkaïen, parce qu'on sait très peu, hein, on ne sait rien.
On sait rien.
Sauf qu'il va le
perdre. Et qu'il ne sera pas insatisfait.
Non, je vous l'avais bien dit.
Voilà.
Tout à fait.
Donc ça le conforte dans son...
Ça le conforte absolument dans sa vie.
Alors, ce qui est... Donc, là, il ne faudrait pas qu'on croie que c'est un livre sur Molière ou sur le misanthrope. Hein. Et donc, on voit qu'à part... Vous partez de ce cas. Alors, c'est une leçon de lecture. C'est... absolument brillant. On entre dans la vie de... On comprend d'ailleurs que le misanthrope, c'est pas du tout une comédie.
Non, pas du tout.
C'est vraiment un texte qui va j'allais dire plus loin. Oui. Une comédie peut aller très loin aussi, mais qui va très fort texte.
Je crois qu'il faut dire une tragédie comique, moi, je pense.
Peut-être,
je
propose,
hein. Comme c'est, Ionesco a parlé de farce, je crois, tragique. On pourrait presque dire tragédie comique.
Alors, le livre est en trois parties. C'est une des parties du livre où, à partir de là, vous nous introduisez en quelque sorte dans qu'est-ce que c'est qu'un homme de vérité. Et vous abordez la question de la vérité aujourd'hui.
Oui.
On n'est plus, la vérité aujourd'hui, c'est plus un domaine que l'on peut décrire, dont on peut dire que, auquel cas on serait très dogmatique d'ailleurs, mais c'est une vérité extrêmement fragmentée, qui est très relative. Et là, vous abordez, y compris des sujets scientifiques, vous montrez à quel point, dans tous les domaines, on voit que le statut de la vérité a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé et que peut-être, nous, les humains qui vivons, on en est encore à une conception trop ancienne et non actuelle.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, sans m'attarder jusque là-dessus, parce qu'en effet c'est très complexe, mais comme vous y faisiez allusion, parce que je trouve que c'est très parlant, je mentionne effectivement notamment la physique quantique, parce que la physique quantique, tout le monde sait que elle propose une description du monde qui est complètement incroyable, enfin sur laquelle je n'insisterai pas, mais qui est tout à fait incroyable. De particules peuvent être liées presque pour la vie. Quand on interagit sur l'une, on interagit sur l'autre, etc., etc. Deux peuvent passer en même temps à des endroits différents. Enfin bon, donc il y a tout un certain nombre de choses qui effectivement sont complètement déconcertantes pour nous et dont on arrive à rendre compte que si on fait, c'est ça qui m'intéresse. Que je voulais simplement mettre en valeur, j'ai rien inventé, mais simplement essayer de faire en sorte qu'on prenne enfin ça en considération. Hein, voilà, c'est-à-dire que la lumière, par exemple, peut être décrite correctement tantôt comme une onde, ça c'est très connu, tantôt comme un ensemble de particules, etc. Il y a donc deux descriptions différentes du même phénomène qui sont pertinentes selon la situation dans laquelle on se trouve. Donc finalement, tout l'effort de la rationalité que représente la science, qui est de nous donner une description univoque et cohérente du réel, eh bien, elle aboutit finalement
au fait... C'est raté.
Voilà, c'est raté. C'est-à-dire qu'au niveau ultime, on arrive à une pluralité de descriptions et on arrive finalement au fait qu'on ne sait pas ce que c'est, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que ça aussi, ça m'a complètement surpris quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Vous avez plusieurs interprétations possibles de la théorie. Et alors, il y a un certain nombre d'interprétations possibles de la théorie. Aucune n'est vraiment satisfaisante, on va dire, pour le bon sens, à tel point qu'il y a la fameuse formule, je crois, de Feynman que je cite, qui disait à ses étudiants, si vous croyez comprendre la physique quantique, si vous ne la comprenez pas. bon, c'est drôle. Bon, et donc, finalement, au niveau ultime, hein, de description du réel, l'effort même de la rationalité... Eh ben, effectivement, échoue sur quelque chose, un, de multiple, et deux, qu'on n'arrive même pas à interpréter. Voilà. Ça me paraissait très important. Donc, il faut peut-être redéfinir la vérité autrement que comme simplement l'exactitude du rapport à un contenu, etc.
D'ailleurs, le chapitre s'intitule « La vérité n'est pas un savoir ».
Voilà, voilà.
C'est une sorte de non-savoir.
Voilà, absolument.
Pour rejoindre
absolument,
un petit peu les théories
de
Lacan.
Absolument, absolument.
Et alors, du coup, ça nous amène à nous interroger sur nous-mêmes. C'est en ce sens que le livre nous parle de nous, quoi, de notre comportement, où on se rend compte qu'on n'intègre pas ce que l'on devrait savoir, en définitive, et qu'on ne s'en sert pas. Et au fond, ce que met bien en évidence votre livre, c'est qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a que des effets de vérité.
Voilà.
Il y a que la vérité, elle surgit à certains moments, plutôt le vrai, plutôt que la vérité d'ailleurs, dans le comportement à un moment donné parce que peut-être on lui laisse un accès. Ça, elle n'est jamais...
stable, figée, etc.
Voilà, voilà.
Tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'il faut poser le problème en termes d'homme de vérité. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus une attitude face aux choses, face au savoir, face au langage et face aussi... à ses propres opinions, hein, c'est-à-dire que personne ne s'interroge sur ses propres opinions, qu'est-ce qui les a construites, pourquoi on les a, etc., que se trouve effectivement ce qu'on pourrait appeler vérité que dans un contenu précis, effectivement. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis effectivement, là je suis Lacan qui disait que le sujet vrai C'est pas le sujet de l'énoncé, c'est le sujet de l'énonciation, qui donc propose de faire un... Alors pour lui, c'est l'inconscient, bon, très bien, mais peu importe. C'est-à-dire que la notion de vérité, à ce moment-là, elle émigre d'une certaine manière, elle change de situation, on passe un cran en amont, et on arrive à l'homme de vérité, ce qu'essaye de montrer le livre.
Quoi. J'aurais tendance à dire que ce livre, c'est l'éloge du doute.
Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
Et d'ailleurs, vous faites, à la fin, vous imaginez une sorte d'utopie, de peut-être un phalanstère, oui, où les gens mettraient tous leurs efforts, justement, à n'être sûr de rien, ouais, à douter de tout, y compris d'eux-mêmes, et auquel cas, peut-être, arriverait-on, mais c'est une utopie, à des rapports vrais, alors, pour le coup, entre les êtres.
Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, en fait, il y a un passage dont je ne voudrais pas qu'il soit mal compris, sur la critique des opinions. Hein, c'est-à-dire, où je dis, finalement, chacun vaut mieux que ses opinions, que ses prétendues opinions. Voilà. C'est-à-dire, quand on regarde de près ses opinions, avec honnêteté, on s'aperçoit, oui, qu'elles sont aussi construites par l'environnement, par la famille, que très souvent, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec son père et qu'on ne le sera jamais, ou au contraire, on veut plaire à sa mère, ou etc. Bon. C'est très net dans les goûts à l'égard des pays, des villes, etc. On le sent très bien, ça, hein, fonctionner. Bon. Donc, il ne s'agit pas de ne pas avoir d'opinion, on en a tous, il ne s'agit même pas de dire qu'elles sont fausses, c'est absurde de le dire en ces termes. Il s'agit d'avoir des opinions sur ses propres opinions. C'est-à-dire de se poser quand même une question sur la construction de ses opinions. Et alors, quand on se pose la question sur la construction de ses opinions, c'est très curieux, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, ça crée une espèce d'espace par rapport à ses opinions. C'est pas comme on change, hein, c'est plus subtil que ça. Il y a un espace qui se crée autour d'elle. On n'est plus prisonnier d'elle.
On se libère, exactement.
On se libère, ah, voilà. Oui. Hein. Et donc, du coup, on commence à entendre les autres aussi, qui peut-être ont une autre vision du monde, etc. Donc cet espace, je me suis dit, mais au fond, comment l'incarner très réellement dans la réalité? Et à ce moment-là, j'ai pensé à un texte que j'avais lu il y a fort longtemps de Camus, d'Albert Camus, qui peut être en réaction à Sartre, mais je ne sais pas, c'est à vérifier, on demandera aux spécialistes de Camus, a écrit dans ses carnets « Je rêve d'un groupe qui serait constitué des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison. Voilà. » Et j'y adhérerais. Et je me suis dit, c'est une très belle formulation de ce que pourrait être un groupe des hommes de vérité. C'est-à-dire qu'ils auraient tous ce rapport critique à leurs propres opinions. Et qu'est-ce qu'au fond, ça donnerait? Alors, je me suis dit, est-ce que ça donnerait forcément, effectivement, un groupe où, bah, un peu flou, on parle... Et je pense de moins en moins qu'au contraire... Enfin, que ça donnerait ça. Je pense de plus en plus que ça donnerait, au contraire, une règle du jeu dans laquelle il faudrait être extrêmement précis, tout argumenté, laisser l'autre le faire, et que donc on se rapprocherait pour vraiment plus. J'ai plus l'espace pour le développer, malheureusement. Mais effectivement, j'imaginais un peu un groupe à la Fourier, vous avez raison. Oui. Vous voulez imaginer une utopie.
Ludique.
Voilà, c'est ça, des gens qui ne sont pas sûrs. Enfin, c'est, oh, je voulais absolument, parce que vraiment, je l'éprouve ça, rendre positif la notion de ne pas être sûr d'avoir raison. Montrer qu'on peut être dans le ne pas être sûr d'avoir raison et avoir quand même des opinions net,
oui,
une analyse des choses, des prises de position, un engagement, que ça n'empêche pas du tout ça. Mieux, que ça rend possible, d'une certaine façon, cela, et que c'est un peu ce que Camus lui-même a essayé de faire, au fond, voilà, sans le dire en ces termes, mais c'est un peu la ligne de Camus par rapport à celle de Sartre, par exemple, pour moi.
L'un étant le dogmatique de l'autre.
Voilà, enfin, hein, je ne sais pas si
Sartre,
vous êtes d'accord avec ça.
Sartre,
mais voilà,
énonçant
voilà,
des vérités.
Voilà, c'est ça.
Des vérités
voilà,
qui
voilà,
non
voilà,
contestables.
C'est ça. Voilà, c'est ça.
Alors que Camus
voilà,
fond,
voilà,
doute
voilà.
Et se questionne en permanence.
C'est ça. Et construit donc un chemin vers le vrai, voilà, qui est la seule chose qu'on puisse atteindre, au fond, pour moi.
Alors, il y a, bon, c'est un livre, un petit livre, encore une fois, mais très riche, où il y a beaucoup de choses, et on ne peut pas tout évoquer, c'est bien dommage, mais il y a une notion dont vous parlez, qui est la justesse.
Oui.
Alors, vous la produisez, cette notion, à un moment où vous parlez notamment du théâtre, du jeu d'acteur. Vous dites, il y a des acteurs qui sont justes, d'autres qui ne le sont pas, et on le sent tout de suite. Et ça, c'est un des effets de la vérité.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, cette vérité, donc, de l'homme de vérité, c'est vrai qu'on peut l'aborder presque musicalement. L'homme de vérité, on en a tous rencontré, hein, j'essaye de faire un peu son portrait idéal, si vous voulez, il sonne juste. Voilà, il sonne juste. Alors, c'est vraiment au-delà de l'accord ou du désaccord avec l'opinion. Par exemple, il peut nous arriver de ne pas être au fond d'accord sur tel ou tel point, et néanmoins, il sonne juste. Comme on le sent, on adhère à quelque chose en lui, en dépit du désaccord. Alors, j'ai essayé de définir ça, et c'est une sorte de justesse presque musicale, comme ça, qu'il a dans son comportement, dans ses intonations, etc. Et donc, pour essayer de le comprendre, de le décrire, je me suis référé au jeu de l'acteur. Parce que chez l'acteur, on voit très bien ça. Hein, il y a l'acteur qui sonne juste, l'acteur qui sonne faux. Mais il y a aussi une troisième catégorie. Vous avez l'acteur de composition, par exemple, qui est son personnage. Par exemple, je pense à Michel Simon, qui était son personnage. Bon. Et puis, vous avez de très bons acteurs, je ne citerai pas de nom, mais qui ne sont jamais qu'eux-mêmes à travers les différents personnages. Alors, peut-être on pourrait dire Gabin, mais je ne veux pas dire du mal de Gabin, qui est un grand acteur. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui, très bien.
Voilà. Où finalement, c'est toujours un peu le même, très bon, d'ailleurs, en demeurant.
À travers des masques différents.
À travers des masques différents, voilà, tout à fait. Et donc, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre qu'à ce moment-là, la vérité apparaît comme simplement la justesse. C'est ce qui sonne juste. Et donc, ça m'a engagé à toute une réflexion sur le sonner juste et le sonner faux, notamment au théâtre. Et donc là, j'ai parcouru comme ça, à partir de ces deux notions, hein, qu'est-ce qui définit le sonner juste et le sonner faux, deux très grands metteurs en scène, bon, très connus, qui sont d'une part Peter Brook et d'autre part Grotowski. Voilà. À partir de ces deux notions. Si j'ai encore une seconde, simplement pour donner un exemple. Voilà. Pour donner un exemple pour comprendre vraiment ce que c'est. Peter Brook, je parlais par exemple de Peter Brook. Hein. Peter Brook met en scène Le Roi Lear de Shakespeare. Bon. Dans Le Roi Lear, il y a un orage. Voilà, un orage où le roi est opposé à l'orage. Comment rendre cet orage sur le théâtre? Alors, on le rend avec des éclairs, c'est ridicule parce qu'évidemment, ce n'est pas un orage comme ceux qui nous attend peut-être quand on va sortir du studio, on va être trempé, ce n'est pas de cet ordre-là. Voilà. Alors, c'est quoi? Comment le symboliser? Non, parce que effectivement, parce que quand même, c'est quelque chose à quoi il se heurte quelque part réellement. Vous voyez? Donc, comment arriver à le rendre? Alors, il y a toute une réflexion sur la façon adéquate, vraie, de rendre cet orage. Eh bien, finalement, après un certain nombre de tentatives, il a même pensé à un certain moment à des écriteaux, simplement, où il y aurait écrit « Ceci est un orage ».
Elle a eu lu.
Voilà, exactement. Mais qui ne marchait pas encore, parce qu'un écriteau ne mouille pas, si vous voulez. Finalement, il est arrivé à la conclusion qu'au fond, ce qui sonnait juste, ce qui était la vérité de cet orage, la vérité théâtrale, esthétique, artistique, c'était de montrer l'instrument sur la scène avec lequel on produit le son de l'orage à travers, où on tape sur quelque chose, etc. De montrer avec des projecteurs ça. Et ça correspondait effectivement à la nature de cet orage théâtral, shakespearien, irréel, tout en étant réel, etc. Alors je trouve que c'est très profond parce que ça dit bien la nature très sophistiquée que peut avoir la justesse. Hein. Et je pensais à un autre exemple aussi peut-être plus familier aux auditeurs, qui est le film de, j'en parle en note, le film de Romère, l'adaptation du Conte du Graal de Romère, du Conte du Graal de Perceval de Galois.
Oui, c'est Perceval de Galois.
Voilà, du Conte du Graal de Chrétien III. Voilà, donc il l'a adapté. Et il a eu à peu près le même type de problème, c'est-à-dire dans quel paysage faire évoluer Perceval. Alors, si vous mettez vraiment des châteaux médiévaux, etc., ça devient un film d'époque, c'est pas ça. Ça se passe, au Moyen-Âge, mais certainement pas au Moyen-Âge des historiens. Voilà. Si vous mettez ça en costume, trois pièces, etc., comme le font certains, c'est un peu ridicule parce que ça paraît artificiel. Totalement. De projeter une modernité de manière aussi brutale. Et finalement, il a trouvé une très belle solution. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, en studio.
Voilà, en studio.
Sans décor.
Voilà, ou des décors qui représentent les enluminures des parchemins médiévaux. Ouais.
Et par contre, les personnages, eux, sont en costume d'époque.
Exactement. Voilà.
Ça, c'est remarquable.
C'est remarquable. Et c'est un très beau choix esthétique qui est du même ordre que celui de Peter Brook. Voilà, pour rendre la vérité, de ce qu'est le Graal. Hein, le Graal, vous ne pouvez pas le montrer en montrant simplement un verre d'eau, enfin une coupe, voilà, c'est autre chose, bien sûr.
Eh bien, merci Jean-Luc Giribon. J'espère qu'on aura donné envie de parcourir ce petit livre, de le lire et de le relire, parce que c'est aussi une leçon de vie, un peu une manière de se comporter vis-à-vis justement de la vérité, et c'est passionnant. Merci de nous avoir produit ce texte. Alors, je rappelle que c'est aux éditions Indigènes. C'est la petite collection qui... j'aime bien le sous-titre, « Ceux qui marchent contre le vent
».
Voilà, qui est le sous-titre cher à Jean-Pierre Barou. Donc, merci et à la prochaine fois.
Peut-être. Et merci à vous de m'avoir reçu. J'ai passé un très beau moment.
Tant mieux.
Et à la prochaine fois.
Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.